Bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 411. Et on reprend notre bâton de pèlerin pour voir des initiatives territoriales hyper intéressantes. Les territoires ont du talent, disait quelqu'un. Et donc là, on va reparler de EdTech Hauts-de-France avec quelqu'un qui est déjà venu souvent, qui est un partenaire privilégié de Format Radio. C'est Chris Delepierre. Chris, bonjour.
Bonjour, bonjour à
Alors, Chris
tous.
Delepierre, président de EdTech Hauts-de-France. Pour ceux qui n'ont pas entendu les émissions précédentes, EdTech, c'est quoi? Et EdTech Hauts-de-France, c'est quoi?
EdTech Hauts-de-France, c'est la communauté des entreprises, des entrepreneurs, des personnes qui s'intéressent donc au monde de la EdTech, donc Education Technology, hein, donc c'est tout ce qui est lié au numérique, au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Et donc, on s'est regroupé en associations locales, régionales, pour pouvoir échanger, mutualiser, mieux nous connaître et faire des projets entre acteurs. Donc, ça regroupe une cinquantaine de membres. C'est depuis maintenant 2010, donc depuis 6 ans. L'idée, c'est vraiment de faire rayonner aussi la région, le territoire, pour en faire, voilà, une terre d'innovation, numérique et pédagogique. Donc
Alors,
voilà, il y a
ça
des...
c'est bien parce que j'avais vu sur le site qu'il n'y avait que 24, ce qui est déjà très bien quand il y a des membres de qualité, mais il y avait 24 membres sur le site. Alors, je me suis dit, tiens, ça, voilà, donc une
Ben
cinquantaine, c'est
ça,
mieux.
ça dépend, mais globalement, on a une bonne cinquantaine de structures qui tournent autour vraiment de EdTech. On a des centaines de personnes qui suivent. Après, il y a les cotisants purs et durs, et c'est ceux-là qu'on met en avant sur le
Ouais.
site internet. Mais
Alors, la
voilà.
cotisation est de combien?
Ah, ben c'est assez, je dirais, accessible. C'est 20 euros pour les individus, et 100 euros
D'accord.
pour les petites structures, et 300 pour celles qui dépassent le million de chiffre d'affaires. Mais je dirais que
D'accord. Ouais.
c'est
Très
le but,
abordable.
c'est d'être abordable, et les événements sont globalement ouverts, donc c'est pour ça qu'il y a, on va dire, une bonne communauté qui tourne autour, et qui participe aux événements qu'on organise.
Et alors, quand tu prends pour cette somme-là, ils ont droit à quoi? Voilà, pour le dire un peu trivialement.
Ah, ils ont droit à quoi? Bah, et en gros, on a un groupe WhatsApp où on informe la communauté des nouveautés, des événements, on leur donne des propositions de participation à des salons, on part ensemble, on mutualise, on va dire, les moyens pour partir à des salons. Il y a la réponse à des appels d'offres en commun aussi
Très bien.
qu'on organise. Il y a la veille aussi d'informations qu'on relaie. Et puis après, il y a des projets qu'on propose.
Donc ça,
On
c'est
a...
sur le groupe WhatsApp où il y a des rencontres physiques.
Alors, il y a des meet-ups qui ont lieu tous
Hein?
les 2 mois. Donc, on fait des soirées chez les membres sur un sujet, sur un thème. Et voilà, c'est l'occasion de rassembler aussi
D'accord.
physiquement la communauté. Mais sinon, voilà, une newsletter et le groupe WhatsApp qui permet directement d'informer en temps réel la communauté.
Alors, l'EdTech regroupe à la fois l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Est-ce que pour une entreprise, c'est intéressant d'adhérer?
Ah bah, je dirais que dès qu'il y a des enjeux de formation en entreprise, RH, hein, il y a forcément se pose la question du numérique. Alors, ça dépend de la taille de l'organisation, mais pour être en contact avec des experts de ce sujet, hein, que ce soit sur des nouvelles technologies, que ce soit sur la réalité augmentée virtuelle, que ce soit sur l'e-learning, que ce soit sur la gamification, le jeu, et maintenant sur l'IA. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer les gens de terrain qui font et qui mettent en place des solutions concrètes au service des entreprises. Donc, effectivement, en tant qu'entreprise, ça peut être aussi l'occasion. C'est vrai qu'il y a la quatrième branche qui est le corporate learning qui se développe, qui est justement notamment pour les grosses entreprises, mais le côté,
Numéro 1.
effectivement, comment je peux intégrer solutions et tech dans mon organisation en tant qu'entreprise.
Alors, Chris Delpierre, ce que j'aime bien dans ce que tu fais sur ton territoire, c'est deux choses. D'abord, c'est l'innovation. C'est que tu bouges beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de présidents d'associations, sans être péjoratif, qui sont plutôt sur des postes honorifiques. C'est déjà honorifique, mais en tout cas, qui ne sont pas des faiseurs. Donc toi, j'aime bien parce que tu vas chercher les gens et surtout, tu es très bien intégré dans l'écosystème classique. C'est-à-dire qu'en fait, tu es ouvert, tu vas avoir d'autres associations, tu travailles avec tout le monde. Donc c'est pas un espace fermé, c'est vraiment un espace d'ouverture sur lequel ça peut être une plateforme pour d'autres structures.
Ah, c'est vrai qu'on est des entrepreneurs, donc effectivement, on fait et on mène des projets concrets
Ouais,
pour
ça,
les
c'est bien.
membres et pour l'écosystème et le faire bouger. L'idée, c'est surtout de faire le lien avec les institutions, que ce soit l'Académie, le CARIFOREF local, la région, les institutions, les hubs technologiques pour vraiment créer du lien et faire découvrir aussi la richesse des acteurs, hein, parce qu'il y a quand même un bel écosystème, mais encore faut-il qu'ils collaborent. Et puis, effectivement, c'est très ouvert parce que voilà, on n'a pas d'enjeu. On est tous bénévoles. Voilà, l'idée, c'est de faire avancer le schmilblick. Et plus on est nombreux, mieux c'est, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une plateforme ouverte pour aussi faire des projets en commun et favoriser les collaborations. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a pas.
Donc
C'est
tous
vrai que
ceux qui travaillent dans la formation, qui s'intéressent à l'innovation, bah, devraient venir en tout cas regarder, parce que les meet-ups sont gratuits, pour voir ce que ça donne, si ça vous plaît déjà. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est pour ne plus être tout seul. Parce que sinon, on porte la charge de la transformation, c'est énorme. Et là, bah, peut la partager à plusieurs. Moi, je trouve que c'est une belle idée, en tout cas, de recréer du lien professionnel.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux et effectivement, on ne peut pas être expert de tout. Donc, l'enjeu, c'est justement d'être plusieurs, pour aborder ces transformations.
Exactement. Alors justement, tu voulais nous parler d'un des projets que tu portais avec l'IA Summit.
Ouais, c'est vrai que là, c'est l'IA, donc c'est le sujet forcément du moment. Et la région Hauts-de-France a décidé de mettre un coup d'accélérateur sur le
D'accord.
sujet, en accueillant, donc il y a le sommet de l'IA européen qui aura lieu donc le 12 juin à Euratechnologie, avec donc sous le haut patronage du président de la République. Et donc là, il y aura beaucoup d'acteurs européens qui viendront à Lille, voilà, parler justement des enjeux de l'IA. Donc il y a le
Alors,
côté.
c'est le sommet européen par rapport au sommet mondial, c'est la même structure ou pas du tout? Par exemple, sur Paris, il y a eu l'IA Summit.
C'est la suite de l'IA Summit, sauf que là,
D'accord.
ils l'ont plutôt intitulé Sommet européen, parce que on va dire les acteurs qui viendront seront
D'accord.
plutôt des commissaires européens, par exemple, ou des fondateurs d'entreprises, mais plutôt européennes et françaises. Donc, je dirais que la dimension là est plutôt européenne. Par rapport à l'IA Summit qui avait accueilli les grands noms de l'IA. Là, on est plutôt sur une ambition française et européenne, on va dire, et puis territoriale. Et c'est là où je dirais ça nous intéresse
Alors,
parce que.
est-ce que les membres ont droit à une invitation?
Ah,
Voilà,
bah.
voilà un teaser intéressant.
Là, je ne sais pas encore parce que c'est l'Élysée directement qui gère et donc. Je sais qu'il y aura à peu près 1 000 participants à cet
Okay.
sommet européen, mais ça va être assez, je dirais, à mon avis, exclusif. Donc, voilà, j'ai pas d'infos plus que
Donc,
le communiqué de presse qui a été communiqué,
il y
mais.
a pas un gain pour EdTech Hauts-de-France. Alors, je rappelle aussi que Lille est à 1 heure de Paris, hein, en TGV, donc c'est pas très très loin. Et souvent, c'est moi, j'ai fait celui de Paris. C'est vraiment intéressant, ça permet de rencontrer des personnes. C'est des conférences de très haute qualité. Donc, ça vaut la peine de se faire son idée soi-même en y allant.
Ouais, bah si vous pouvez y aller, effectivement, allez-y. Après, je ne sais pas au niveau des accès, comment ce sera possible. Mais justement, la région, dans l'idée de rendre accessible et rendre plus populaire aussi l'IA, a décidé d'organiser un festival qui s'appelle IA avec nous et qui labellise, on va dire, des événements qui auront lieu la semaine suivant ce sommet européen. Donc là, ce
Alors,
sera donc.
je ne sais pas si on a donné les dates du sommet.
Alors, le sommet, c'est le 12 juin, un vendredi. Et ensuite, le festival de l'IA, ça a lieu du 13 au 19 juin.
Très bien.
Voilà, du samedi jusque toute la semaine d'après, jusqu'au vendredi. Et là, il y aura aussi énormément d'événements de proposés, là, par les acteurs locaux. notamment l'Académie qui va proposer un événement à Arras le 19 juin, la Métropole européenne de Lille, plutôt sur le côté IA et agents territoriaux publics, propose le 16 juin une journée. Le 15 juin, la Cité de l'IA, qui est le dispositif régional pour les entreprises, ouais, qui accompagne beaucoup d'entreprises de la région, c'est un peu la plateforme sur l'IA, organise le 15 juin aussi toute une journée sur l'IA, plutôt côté entreprise. Et voilà, donc il y a plein d'événements qui ponctuent cette semaine et ce festival, et dans lequel aussi nous-mêmes on va s'ancrer avec EdTech Hauts-de-France.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous?
Alors, on a planifié plusieurs activités qui reprennent, on va dire, les verticales de la EdTech. Donc, il y a le côté enseignement supérieur et recherche. Et là, l'idée, c'est de pouvoir proposer une soirée, notamment le 17 juin en soirée, dans un campus d'une école qui s'appelle Innov, qui est à Croix, près de Lille. Et l'idée, c'est aussi de faire intervenir des acteurs de l'éducation supérieure, comme l'EDEC, par exemple, qui collabore avec une start-up qui s'appelle Blue Train sur l'évaluation par IA, par exemple, des copies des étudiants, ou bien l'Université de Lille qui collabore avec d'autres universités en France pour développer une infrastructure technologique partagée et souveraine. Et donc là, ça va être aussi la présentation de ce projet qui s'appelle ILIAS. Et donc, voilà, qui sera présenté à cette occasion. Et donc, voilà, l'idée, il y aura aussi Knowledge, hein, qui est une entreprise régionale qui développe une IA pour les enseignants, pour leur permettre de diversifier leurs modalités pédagogiques par des quiz, des flashcards, des chatbots apprenants et autres. À partir du cours de l'enseignant. Et donc, voilà, on aura aussi Knowledge. Et donc, on a ce premier événement, là, le 17 au soir, plutôt pour les acteurs de l'enseignement sup, qui sera dédié. On a également un événement pour les professionnels de l'éducation et de la formation professionnelle qui aura lieu le 16 juin en live streaming sur le temps du déjeuner. Et donc là, l'idée, c'est de faire une table ronde avec des acteurs entreprises et puis voilà, consultants, en tout cas ambassadeurs IA, des personnes qui accompagnent les structures à la mise en place de solutions IA pour voilà, les organismes de formation, les formateurs, enfin, les professionnels. Et donc là, c'est voilà, l'idée, c'est de le faire à la fois en présentiel pour ceux qui sont en région. Il sera lieu au Cube EIC de Tourcoing, qui est un grand tiers-lieu éducatif. Et puis, ce sera diffusé en live streaming. Donc, là aussi, vous pourrez y assister de chez vous, si vous ne pouvez pas venir à Tourcoing. Et donc, voilà, une table ronde sur vraiment ce sujet-là.
Donc, si
Et
on veut
puis, ouais.
s'inscrire, on s'inscrit où?
Ah bah, suivez, je dirais le LinkedIn ou la newsletter de EdTech Hauts-de-France, parce que là, on est en cours de finalisation de la com, mais dans je crois, la semaine prochaine, on enverra les supports d'invitation et de connexion pour les auditeurs et puis pour voilà, les participants. Et puis le troisième événement, qui est voilà, le grand événement, le temps fort, c'est la grande kermesse de l'IA,
Exactement.
qui est un événement grand public, voilà, plutôt pour voilà, tout à chacun, mais notamment les enfants, les familles, pour vraiment démocratiser l'IA sous la forme là d'une grande kermesse. Hein. Donc
Alors,
l'idée,
qu'est-ce qu'on fait
c'est
dans cette kermesse? On
ben, l'idée,
s'amuse déjà?
c'est voilà, on s'amuse, il y aura des stands avec des ateliers pour voilà, découvrir l'IA un peu de façon pratique. Il y aura une exposition, il y aura des stands avec voilà, des animateurs pour présenter leur activité ou présenter l'IA. Il y aura un escape game sur aussi l'IA, des conférences. Et voilà, l'idée, c'est toute une demi-journée. Donc, ça aura lieu le samedi après-midi 13 juin, donc suivant le sommet européen. Toujours à Eura Technologies, il y a un très grand atrium qui va accueillir cette grande kermesse. et de pouvoir, voilà, venir en famille. Il y aura aussi un magicien, il y aura un sculpteur sur ballon, donc ce sera aussi ambiance kermesse.
Ouais,
Mais
très
l'idée,
bien.
voilà, c'est aussi, il y aura aussi des membres EdTech, hein, qui présenteront ce qu'ils font. L'idée, voilà, c'est d'avoir un événement festif et puis aussi accessible pour tous, pour vraiment rendre concrète l'IA compréhensible de tous, quoi. Il y aura aussi un café IA pour les parents aussi,
Ah,
tout
très
ça.
bien.
Parce
Donc,
que
non, on s'aperçoit, et c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es foisonnant. C'est-à-dire qu'en fait, tu organises avec sérieux, mais avec un foisonnement d'idées. Et donc, ça permet de faire la fête au sens noble du terme de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui est acteur de la fête, mais il faut bien des organisateurs. Et c'est ça que j'aime bien sur ce que tu fais. Donc, bravo.
merci. Après, c'est vrai qu'il faut impulser l'idée. Et puis, c'est ça qui est sympa quand tu es entrepreneur, c'est passer de l'idée à la matérialisation du rêve et de mobiliser plein d'acteurs et de gens pour la rendre concrète et faisable. Après, c'est vrai que les délais, là, pour le coup, sont assez courts en termes
Oui, c'est
d'orga.
ce que je
On a
dis.
eu la confirmation assez de façon assez il y a très peu de temps de ce festival, donc ça nous laisse même pas 2 mois pour l'organisation, mais voilà, on sait que c'est un sujet de toute façon qui est important. J'ai pas enfin, la kermesse de l'IA, ça reste quand même un format très très innovant, avec vraiment la volonté de la région de le démocratiser au plus grand nombre, parce que c'est vrai que maintenant, pour les professionnels, vous avez les ambassadeurs IA, vous avez des dispositifs, l'école s'y met, marche forcée, mais voilà, il y a quand même des choses. Mais vraiment, pour le grand public et les enfants et autres, ça reste quand même un sujet qu'il faut traiter, qu'il faut aborder. Et puis, on espère aussi qu'il y aura une couverture presse nationale, hein, de par le sommet européen. Voilà, ça va aussi faire venir, je pense, pas mal de médias. Donc l'idée aussi, c'est toujours de faire rayonner les acteurs et les initiatives locales, tout simplement, pour pouvoir voilà, faire parler du sujet le plus largement possible.
Effectivement, 66%, j'avais lu que 66% des Français ont déjà utilisé l'IA. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que après, ce n'est pas forcément régulièrement, ça dépend des besoins, mais c'est quand même 2/3 des Français. C'est quand même un certain chiffre. On est dans la moyenne européenne, hein, donc on n'est ni bon ni mauvais. Tu trouves qu'avec l'IA, on est plutôt bon en France, ou dans les usages, ou dans la production, où tu dis bof.
Bon, je pense que les acteurs s'y mettent et après, c'est pas tant une question de s'y mettre, de savoir bien l'utiliser et à son plein potentiel, parce que c'est une technologie tellement qui évolue tellement avec tellement de possibilités que c'est vraiment pour moi, ouais, une révolution plus large de la manière de travailler, de nous organiser, de communiquer, etc. Donc là, je dirais qu'il y a encore un stade. Et puis, c'est pas parce qu'on a utilisé une fois l'outil qu'on sait l'utiliser, que voilà, on est un expert du sujet. Donc, je pense qu'il y a du travail d'acculturation pour encore de nombreuses années. Et puis, voilà, il y a aussi toujours la fracture numérique, hein, qui se répète. Mais je dirais que la plupart, peut-être qu'en entreprise et dans des milieux forcément tech et entrepreneuriaux, là, l'IA est intégré, mais dans aussi la majorité des autres lieux, type les centres sociaux, les quartiers, même en école, hein, que ce
Bien sûr.
soit primaire, collège, etc., ça reste encore vraiment très très nouveau et encore une découverte. Donc là, je pense qu'il y a cet enjeu, effectivement, hein, qui est repris par le festival, mais de rendre ça vraiment accessible et populaire, parce que voilà, ça impacte toute la société, ça impacte tout le monde, mais
Quand tu
encore.
parles de l'enseignement et de l'école, tu as raison. La grosse crainte qu'on entend, c'est qu'en fait, ben, l'IA peut remplacer. Je ne sais pas si tu as vu Google qui avait fait une vidéo hyper intéressante où on voyait un professeur faire une équation au tableau. Donc, c'était filmé comme une vraie situation. Et tout ça est généré par l'IA. Donc, ce qui veut dire que les professeurs se disent, ben, demain, est-ce que ce ne sera pas l'IA qui nous remplace?
Ah bah c'est sûr, après on disait ça déjà quand il y a eu YouTube, quand il y a eu
Le
Internet.
cinéma, à l'époque, Thomas Edison a dit,
Voilà.
le cinéma va remplacer l'enseignant.
Donc bon, c'est vrai que on sait que ça n'a pas remplacé, mais ça a fortement effectivement changé la pédagogie. On peut l'évaluation, hein, là c'est surtout, je travaille sur, je suis formateur IA pour des enseignants et la question de l'évaluation des devoirs maison, etc., se repose, en tout cas on repose
Bien sûr.
le sens de l'évaluation à l'ère de l'IA. Donc effectivement, il y a besoin de prendre conscience de ces enjeux-là en tant que prof ou en tant que formateur. Parce qu'effectivement, les élèves, pour le coup, c'est aussi un phénomène générationnel, hein, l'IA, mais est utilisé par les élèves. Après, la question, c'est quelle est l'éducation à ces outils, comment leur faire prendre conscience aussi des dangers, des impacts écologiques, des biais, des enjeux éthiques, etc. Donc
Ça,
vraiment.
c'est pas plutôt un discours de prof que tu as là? Parce que quand on voit les élèves, ils ont compris qu'ils sont dans un système, ils veulent le diplôme. Le système, quand on fait des rapports, ils l'ont compris. Moi, j'ai eu la chance de faire l'inauguration d'une école à Lille. C'est quelques mois après, 2, 3 mois après le lancement de ChatGPT. Je voulais faire mon petit effet. Je demande aux élèves, ils étaient à peu près 1000, je leur demande qui a déjà utilisé ChatGPT. Il y a 80% qui ont levé la main. Alors que les professeurs se disaient, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, de salle aux ambiances, c'est plutôt par les apprenants que les apprenants se disent, il y a plein de trucs que je peux apprendre par ChatGPT, ben autant être un bon accélérateur.
Ah bah de toute façon l'idée c'est pas d'être contre et de toute façon il faut l'utiliser et c'est vrai que pour l'apprentissage ça peut être vraiment un super
Exactement.
outil mais l'utiliser en conscience et ça demande quand même des connaissances et de derrière la boîte noire de savoir un peu comment ça fonctionne même d'un point de
Alors,
vue
pour les
technique.
auditeurs qui nous écoutent, souvent les gens disent, ChatGPT, c'est formidable, mais il faut avoir un esprit critique, l'utiliser avec conscience. Ça veut dire quoi concrètement?
Avoir l'esprit critique, c'est vrai que ça se déclenche pas comme ça. Il faut avoir une culture générale, je pense, et surtout, ça va être d'autant mieux utilisé que quand on maîtrise le sujet dans lequel on va utiliser l'IA, parce que comme l'IA peut se tromper, forcément, il faut toujours douter finalement de la réponse, même si. Voilà, elle peut paraître plausible, etc. On n'est jamais à l'abri d'une hallucination ou d'une erreur. Donc c'est toujours la question des sources, la question de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que nous fait l'IA, mais de vraiment chercher, enfin d'être toujours en quête de vérité, tout simplement, et de ne pas déléguer, on va dire. Et le risque, c'est ça, hein, c'est vraiment de tout déléguer à la machine sans forcément se poser de questions. C'était déjà un peu le cas avec voilà, le numérique avant, hein, parce que c'est une évolution de la révolution numérique. Mais là, c'est vrai que comme l'outil est très très puissant et a des facultés, on va dire, cognitives, hein, quand même, qui arrive à reproduire en tout cas une partie de l'intelligence humaine, c'est vrai que le risque, c'est vraiment de déléguer nos efforts et nos pensées à la machine, alors que il faut d'autant plus, pour moi, être acteur et garder cet esprit critique, quitte à ce que ça prenne le même temps. Après, on peut arriver à des résultats maintenant plus intéressants avec l'IA qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais voilà, c'est toujours la question de l'objectif. Est-ce que souvent, ce que je dis, c'est quand je fais une randonnée, est-ce que je veux me téléporter directement au bout du chemin ou est-ce que l'intérêt, ce n'est pas le chemin en tant que tel? Et donc là, en me posant, on va dire, ce critère-là, je vais me dire, voilà, est-ce que je vais utiliser l'IA directement pour reformuler des choses et gagner du temps, etc. Ou est-ce que je vais utiliser, par contre, l'IA pour me challenger, pour me questionner, pour vraiment aller plus loin que ce que j'aurais pu faire sans IA? Et c'est toujours pareil, c'est le rapport, est-ce que je suis acteur avec la technologie ou est-ce que je suis consommateur passif? Et ça, je dirais que ça, voilà, c'était déjà le cas avant, mais encore plus avec l'IA.
Et je trouve que c'est là où les enseignants interviennent. C'est à la fois pour donner l'ossature critique, parce que quand on n'a pas de culture, ben on prend ce qu'on nous donne. Parce que de plus en plus, même sur des gens bien formés, ils se disent, bah, je demande à l'IA, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, et je deviens finalement le perroquet de l'IA. qu'à une certaine époque, on avait dit que l'IA, c'est le perroquet de l'homme. Ben, en fait, je deviens le perroquet et il y a des. Moi, j'interviens un peu dans les masters. On voit des élèves qui disent, mais moi, je répète ce que l'IA m'a dit. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, beaucoup leur demandent de le répéter oralement et pas par écrit pour voir s'ils comprennent ce qu'ils disent. Donc, ça a une nouvelle forme d'évaluation, le grand retour de l'oralité. Mais en tout cas, il y a des modalités. L'esprit critique, c'est de dire, si je le prends comme tel, et neurologiquement parlant, le cerveau est fait pour ça. Hein. Il va au plus simple, il ne s'embête pas. Donc, il va prendre ChatGPT, il va prendre tous les LLM qui sont meilleurs en meilleurs, même s'il y a des hallucinations, ça va se réduire. Et le prix des hallucinations est beaucoup moins important que le prix de l'effort. Donc, les gens se disent, j'accepte d'aller vers cela. Mais c'est là où il faut les former à avoir une ossature pour se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'a pas une façon de voir les choses qui peut être la mienne, mais peut-être pas? Et donc, est-ce que je ne mets pas en défiance de l'IA? Et c'est ce travail-là qui est celui, me semble-t-il, de l'enseignement supérieur, qui en perspective, hein, pourrait être ça. Donc, tu
Ouais,
as.
bah, moi je travaille beaucoup sur l'approche réflexive des compétences, donc c'est vraiment prendre conscience des compétences, de ses apprentissages, etc. Et ça, c'est un exercice que peut pas faire l'IA pour soi. Alors, c'est toujours pareil, on peut toujours tricher avec l'IA, etc. Mais ça repose vraiment la question de pourquoi j'apprends. Et pour moi, là, il y a ce souci hein, qui était déjà, mais c'est-à-dire que là, les élèves veulent avoir des bonnes notes. Donc, forcément, ils vont utiliser l'IA pour avoir des bonnes notes. Mais l'enjeu, est-ce que c'est avoir des bonnes notes ou d'avoir appris quelque chose? Et donc là, il y a vraiment une bascule à faire d'un point de vue évaluation et système, aussi pédagogique, pour arrêter des situations absurdes où le prof va évaluer de l'IA ou c'est l'IA qui va évaluer l'IA, parce que le prof
Exactement. Les professeurs font
va.
aussi de plus en plus ça en
Ah
disant
oui.
il ne faut pas l'utiliser et ils l'utilisent pour donner des notes et ça marche bien. Alors l'IA Act interdit de le faire s'il n'y a pas de supervision humaine. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que les professeurs le font pour les mêmes raisons que les élèves, hein, tout
Bah
simplement.
oui, tout simplement,
Voilà.
ouais.
Donc tu dirais que les entreprises, c'est quand même plus avancé que l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale?
Oui, alors l'enseignement sup, en tout cas nous dans le privé, on a des grandes écoles de commerce qui vraiment sont assez moteurs sur le sujet. Ils ont fait des chartes IA, ils font des partenariats avec des startups. Donc il y a une maturité quand même assez forte, mais
Très
bon,
bien.
c'est comme des entreprises, hein, les écoles de commerce. Mais plutôt, ouais, l'éducation nationale en tant que telle, ça reste encore le début. Et donc là, il y a vraiment un enjeu plus large de formation des acteurs qui, enfin voilà, plus on descend en âge, plus c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, c'est plus les parents pauvres. Et donc là, pour moi, il y a cet enjeu de sensibilisation. Alors, on a fait un petit guide pratique de l'IA éducative en
Ouais, j'ai vu
Hauts-de-France pour
ça.
justement aussi faire un ouvrage illustré, accessible pour déjà
C'est
avoir
celui
un
qu'on peut
premier.
télécharger sur ton site.
Voilà, sur le site de EdTech Hauts-de-France, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est vraiment une œuvre collective aussi qui est encore à jour parce que ça fait depuis maintenant septembre 2025 qu'on l'a publié, mais voilà, il perd pas de son acuité, de sa pédagogie. Et c'est vrai que bah voilà, plus il y aura de moyens d'aborder le sujet de façon aussi décomplexée, parce qu'il peut aussi y avoir une peur, hein, notamment chez les plus âgés. Utiliser ces outils, voilà, plus il y aura d'initiatives dans ce sens, voilà, plus on pourra, j'irai avancer. Et puis c'est vrai que la question des parents, ça aussi, c'est un sujet pour moi qui est peu souvent abordé, mais voilà, comment aborder l'IA avec mon enfant, comment. Et puis voilà, ça rentre aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux, enfin voilà, c'est une sphère hein, plus large. Mais forcément, les enfants sont assez lâchés dans cette jungle numérique pour le meilleur et pour le pire, quoi. Donc,
Donc, comment tu fais? Tu leur interdis, tu fais des plages de non numérique?
en tout cas, nous, à l'école, ce qu'on va recommander, par exemple, c'est des plages sans IA et des plages avec, mais de façon encadrée. Parce que de toute façon, il y aura des temps où le jeune, plus tard, il n'aura pas accès forcément à l'IA. Donc, il faut qu'il se débrouille sans. Et donc, il faut être autonome sans IA. Et puis, forcément, il faut apprendre à l'utiliser. Donc, là, il faut proposer des temps encadrés où l'usage de l'IA est autorisé. Mais voilà, il faut se méfier, voilà, toujours des extrêmes, hein, d'être 100% sans IA et 100% avec. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, effectivement, c'est de cadrer, parce que souvent, il n'y a pas de cadre ou c'est pas explicitement exprimé. Donc, le jeune, forcément, il va l'utiliser parce que ça va lui faire gagner du temps, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure façon d'un point de vue pédagogique. Et donc là, c'est plus à l'adulte et à l'enseignant de proposer ce cadre à l'élève, quoi.
Pour toi, l'avenir de l'IA, c'est quoi? Aujourd'hui, on est dans les LLM, donc les langages de modèle. C'est-à-dire quand on discute avec une IA qui nous accompagne et qui fait des choses très intéressantes sur du tutorat, même de l'enseignement, etc. C'est passionnant de voir les études qui sortent maintenant sur ces sujets-là. Mais l'avenir, c'est quoi? C'est le LAM, c'est l'IA physique, comme on dit, c'est-à-dire les robots. Comment tu vois l'avenir?
Bah, c'est à plus ou moins long terme, mais effectivement, je pense déjà à l'avenir, c'est d'avoir des profs augmentés avec l'IA, en tout cas, qui puissent savoir bien l'utiliser et que ce soit un atout pour eux aussi, et pour le formateur également, parce que ça offre justement, effectivement, plus de personnalisation, plus de possibilités de médiation, de savoir, de. Voilà, on peut faire de la musique aussi avec de l'IA, donc on va diversifier aussi
Il
les.
y a un ministre de l'Éducation qui a fait un tube avec l'IA.
Voilà, ça m'étonne plus.
Blanquer a fait un tube dont le nom m'échappe, mais qui a très très bien marché sur les réseaux sociaux.
Ah
Il a fait avec
oui.
Suno,
Ouais.
donc il a fait dans son style. Hein, mais en tout cas, c'était très bien, ça a très bien, une belle résonance. Donc
Bah
tout le
ouais,
monde
à
peut.
chaque formation, je fais un tube, effectivement, aussi,
Très bien.
personnalisé. Et ça met tout de suite une bonne ambiance et ça crée une expérience apprenante différenciante. C'est ça qui est. Et aussi intéressante avec l'IA qu'on ne pouvait pas faire avant, en tout cas avec des moyens accessibles. Donc là, voilà, à court terme, c'est ça. Et puis effectivement, demain, l'IA physique, là, c'est très impressionnant ce qu'on voit aussi en termes de robotique. Donc ça va forcément arriver peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. Et là, forcément,
Alors,
bah,
dans les salons, ils aiment bien montrer ça, parce qu'en fait, c'est le robot qui fait la bagarre. Ouais, je ne sais pas pourquoi tout le monde aime ça, mais dans tous les grands salons internationaux, c'est des robots qui font la bagarre. Ça me paraît bizarre comme comportement, mais alors bien sûr, ils peuvent faire plein d'autres choses, hein, évidemment. Hein. Mais c'est très
ouais.
intéressant, et ce n'est pas quand on suit aujourd'hui, vu les investissements, on se dit, dans 4-5 ans, aujourd'hui, un robot, ça coûte 30 000 euros. Alors, c'est une somme, mais ce n'est pas non plus ouf comme somme. C'est le prix de quelqu'un qui est au SMIC sur l'année. Donc, ce n'est pas absurde. Et donc, ce qui fait que derrière, on se pose la question, les prix vont baisser quand ils vont produire en grande quantité. Donc, chacun, c'est le pari d'Elon Musk, par exemple, chacun aura son majordome, son robot qui ira lui faire ses courses s'il ne veut pas les faire, qui ira porter la voiture s'il faut porter la voiture, même si elle est autonome, donc voilà. Mais il voit bien les choses comme ça. Tout ce qui est physique pourra être fait par un robot personnel.
Ouais, c'est sûr que ça va développer. Après, je pense qu'il y aura beaucoup de contraintes parce que c'est le monde physique est pas cadré autant que le monde numérique. Donc, je dirais qu'il y aura. Enfin, ça va prendre du temps, à mon avis. On va avoir le temps de voir venir. Après, effectivement, là, c'est déjà accessible, comme tu disais, c'est déjà une réalité. Après, dans le monde éducatif ou pédagogique, c'est vrai que là, je vois moins directement les implications où là, l'humain en chair et en os aura toujours, à mon avis, là, en tout cas, aura toujours une vraie utilité, et puis une vraie aussi. Enfin, l'humain, c'est l'éducation, c'est une relation. Donc, à part créer une relation avec le robot, mais voilà, ça reste quand même une relation entre un apprenant et un formateur ou un pédagogue. Donc, pour
Serge Tisseron,
motiver.
par exemple, Serge Tisseron parle d'empathie numérique. C'est-à-dire qu'il montre que finalement, si on a un robot, alors pour l'instant, ils sont pas incarnés, mais demain, ils sont incarnés. Ce qui manquait, c'est tous ces gestes parasites, ces micro-signaux qui faisaient qu'on gigote et ce qui nous rend vivants. Et ça, aujourd'hui, le robot, c'est paramétré. Hein, sur Grenoble, il y a plein de gens qui ont fait ça sur les visages, sur les corps. Donc, on sait faire ça. Demain, on aura le robot qui nous plaît, avec les critères qui nous plaisent. Et même si on ne sait pas ces critères, il suffit de se caler sur un pulseur de pression artérielle, par exemple, pour savoir si je trouve ça sympa, et il prendra l'attitude dont j'ai besoin. Bon, aujourd'hui, techniquement, c'est possible.
Oui, après, est-ce que l'empathie numérique sera la même que l'empathie interhumain? Ça, c'est une vraie question. Et puis voilà, quand même, hein, enfin, pour moi, toutes ces technos, ça va prendre quand même du temps à s'ajuster, quoi, au monde physique. Même si, effectivement, je pense d'un point de vue recherche ou autre, il y a déjà des choses, mais c'est tellement, pour moi, beaucoup plus, tellement complexe le monde physique que, voilà, je pense qu'effectivement, on en est encore loin. Et puis, on le voit aussi, même avec les tuteurs numériques. Hein, c'est la Khan Academy, donc le fondateur qui a mis en place des tuteurs numériques pour les apprenants. Et en fait, il se rend compte que bah, c'est pas forcément ultra utilisé par les apprenants. En tout cas, les retours d'expérience sont pas forcément comme ils se l'attendaient. Parce que sur le papier, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir. Mais au final, les apprenants se l'approprient pas forcément énormément, quoi. Donc voilà, c'est pas dit non plus
Parce
que
que
les
dans le monde des
apprenants.
startups, il y a beaucoup de petites structures, principe des startups, qui sont investies sur, je pense à Cocobot ou des choses comme ça, sur l'accompagnant, sur le, alors, sur le tuteur, sur les soft skills, sur le coaching, etc. Il y a plein qui lancent des spécificités un peu de cette nature-là, parce que bon, ils y croient, ils se disent qu'il y a peut-être un marché à prendre.
Il y a beaucoup de tests à façon de marcher, parce que là on est vraiment sur des nouvelles modalités d'interaction, etc. Et effectivement, les jeunes, je pense qu'ils auront l'habitude d'échanger avec un robot conversationnel, donc ça va pas les forcément plus les. Et en tout cas, la résistance au changement sera beaucoup plus faible. Après, voilà, c'est pas dit que ça remplace en tout cas les médiations classiques, quoi, en tout cas telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ça va certainement être une option en plus, ou en tout cas quelque chose qui
Un
sera
mix.
proposé. Un mix, voilà.
Donc ça c'est sur la partie aujourd'hui développement. De toute façon, il faut essayer. Comme c'est, il y a à chaque fois des fonctionnalités nouvelles, bah, il faut forcément essayer. Comment t'expliques qu'en France, on n'est pas de licorne ou même de centaure dans les
Sur
techs?
en EdTech,
Alors,
le marché
peut-être que
tech
tu peux redéfinir ce qu'est une licorne ou un centaure pour les
bah, une
auditeurs.
licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus de X
Un
milliards,
milliard,
1
absolument. Et le
milliard,
centaure, c'est 100 millions.
100 millions. Bah, effectivement, le marché de la high-tech est assez morcellisé. Donc, il y a plein de petits acteurs, de petites entreprises, etc. Et peu de très gros. Alors, je pense que c'est dû à la typologie du marché de l'éducation, hein, qui est déjà très complexe en soi. C'est-à-dire que bah, pour déjà, bon, on fait pas fortune dans la high-tech, hein, déjà, déjà, si on arrive à être rentable et à
Pourquoi?
pouvoir.
Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas fortune dans l'EdTech?
Bah parce que de base, on est plutôt pour moi sur l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire,
Alors,
que. Bah,
fortune, ça ne veut pas dire que tu vas tout le dépenser pour toi. Enfin, après,
non,
tu
non,
fais ce
mais
que tu
bon,
veux,
par
c'est ton
rapport à d'autres
argent.
secteurs d'activité où là, on peut gagner énormément d'argent. En tout cas, je vois pas ce même phénomène, en tout cas, sur le marché de l'éducation, quoi. D'autant plus sur des domaines publics, que ce soit.
Quand on prend l'éducation nationale, il y a à peu près 1 million d'utilisateurs. Donc, si l'éducation nationale décide d'aider, d'accompagner, de sponsoriser, peu importe les appellations ou le pilotage de l'innovation, dans ces cas, il y a un vivier extraordinaire pour tester n'importe quoi.
Alors c'est sûr que il y a des chiffres, enfin, c'est vrai que c'est énorme en termes de
Bien sûr.
nombre de profs, etc. Sauf que la réalité fait que même si le système est très centralisé, c'est très difficile de passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes et de freins à la fois administratifs, mais aussi il y a un morcellement des acteurs qui fait que même s'il y a une décision de se dire voilà, on applique tel outil, etc., on le généralise, c'est très très long et très très compliqué dans la mise en œuvre.
Donc tu
Et
dirais que c'est un problème de gouvernance ou
bah, de système organisationnel, quoi.
c'est un peu une administration, quoi.
Ouais, bah, c'est une institution et qui est pas forcément la plus adaptée pour l'innovation.
Parce que quand on regarde les chiffres sur une structure qui est moins hiérarchisée, qui est la formation professionnelle, la France dépense chaque année plus de 56 milliards, et c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc on dépense beaucoup d'argent et on n'a pas une licorne d'un milliard. Donc on se dit,
Ouais.
vu l'argent qu'on dépense, il y a peut-être un gap.
Ouais, après, c'est pas une finalité d'avoir des licornes, hein. Je
Non, mais
dirais
ça peut vouloir dire qu'on fait une, ça veut dire qu'on s'impose, c'est-à-dire avec le soft power, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose qui a une vocation mondiale. Les licornes, c'est souvent un peu une vocation mondiale. Mais ça veut dire que la France reprend son lead sur l'enseignement, ce qu'elle a eu par l'innovation.
Ouais,
La France et l'Europe.
après, je pense qu'aussi ça doit être lié au système d'investissement où on va plutôt retrouver ce type de financement aux États-Unis avec des grosses levées de fonds de start-up dans
D'accord.
l'éducation et ça facilite, je dirais, la création de ce type d'acteurs.
C'est ce que le rapport Draghi disait. Il disait que c'est un problème de financement de l'innovation en Europe.
Ouais, certainement. Après, je dirais que c'est pas, pour moi, c'est pas non plus la panacée d'avoir des énormes acteurs, etc. Mais il y a pour moi un enjeu plus large de comment, en tant qu'entreprise privée, on puisse innover et travailler avec ces acteurs-là qui ont besoin d'innovation,
Bien sûr.
à l'école, les profs, etc. Et comment on arrive à en vivre et à développer et avoir plus d'impact.
Bien sûr.
Moi, l'enjeu est plus là, et c'est vrai que le système tel qu'il est organisé ne facilite pas, on va dire, les choses, et même
Parce que
en maillant avec la EdTech, etc. Enfin
bien
voilà,
sûr.
on fait ce qu'on peut dans notre territoire, mais c'est pas
Bien
pour
sûr.
autant que c'est facile et que ça fonctionne.
Parce que tu parlais de la souveraineté. Donc c'est un problème de souveraineté après, c'est que, et on l'a bien vu quand Microsoft n'a pas été content d'une décision du tribunal pénal, il a suspendu pendant 24 heures ou 48 heures tous les comptes de Microsoft, donc Outlook, du procureur. Et
Ah
donc,
ouais.
et là, c'est une illustration concrète. Alors, bien sûr, ils ne l'ont pas fait perdurer, mais ça veut dire que quand on dépend des États-Unis ou des Chinois, qui sont les deux gros monstres dans ce domaine-là, ben, finalement, on dépend.
Ah bah c'est là, c'est vrai qu'il y a un enjeu de souveraineté. C'est tout le discours, hein, de EdTech France au niveau national, hein, de promouvoir justement la EdTech française et de dire que c'est des entreprises locales, souveraines, qui ont leur serveur en Europe, etc., pour, voilà, comme vrai axe de différenciation par rapport à des géants américains. Ça, je pense que ça évolue quand même positivement avec ce qu'on a vu d'un point de vue politique aux États-Unis. Il y a quand même une envie, un retour, et une perception des risques plus forte maintenant qu'il y a quelques années. Et là, on l'a vu récemment avec les décisions du gouvernement, là, de ce que les ministères et autres choisissent des solutions libres plutôt que Microsoft pour les équipements. Donc voilà, ça. Mais forcément, c'est des choix qui vont prendre du temps parce que forcément,
Exactement.
on est un peu.
Donc, il vaut mieux choisir Mistral ou Qt plutôt que ben, OpenAI ou Claude.
Ah bah c'est sûr que voilà, choisir d'un point de vue souveraineté, autant
Mais le résultat, ce n'est pas
choisir,
le même non plus.
voilà, ou tester plusieurs. Voilà, moi
Voilà.
l'idée souvent c'est de pouvoir comparer les résultats, de l'utiliser en conscience, parce qu'on ne va pas non plus ne pas utiliser les IA auxquelles on est lié. Par exemple, nous on a nos activités sur en tant qu'entrepreneur sur Google Drive. Bah voilà, on va plutôt utiliser par exemple un Gemini. Mais c'est d'avoir cette conscience-là et puis de pouvoir voilà, utiliser ces différents outils en conscience pour les comparer, parce qu'effectivement les données d'entraînement ne sont pas les mêmes. Et puis effectivement de promouvoir l'IA française, parce que si on veut vraiment voilà, avoir une souveraineté, il faut favoriser ces acteurs-là. Il y a un discours intéressant d'Arthur Mensch sur le sujet, donc le fondateur de Mistral, voilà, qui essaye aussi de sensibiliser les députés, les sénateurs et autres à ces enjeux-là. Mais c'est vrai que c'est des questions pas pratiques, et il y a aussi un enjeu d'harmonisation des normes européennes dans chaque pays, parce que ce qu'il
Bien
dit,
sûr.
en tant qu'entrepreneur, s'il veut être dans chaque pays, il doit refaire de A à Z une entreprise, alors que c'est une entreprise européenne. Donc il y a aussi pas mal d'intégration à faire entre acteurs européens, parce qu'effectivement, le marché est plus gros au niveau européen que juste en France, quoi.
Et là, et OVH, c'est de Lille,
Allez, c'est Roubaix, oui.
OVH. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et donc, en fait, il y a des belles structures. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir des passeurs. C'est ce que tu fais toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu réunis des gens, tu fais du lien, parce qu'on ne peut pas être dans son petit village tout seul. Donc, un territoire, c'est bien pour ça, parce que ça peut donner. Quand on voit, par exemple, Israël, c'est 10 millions de personnes. Ils arrivent sur l'IA et la sécurité à être dans les trois premiers mondiaux. Donc, 10 millions de
Ouais,
personnes, c'est pas non plus de ouf, hein.
non, c'est sûr que je pense qu'on se sous-estime souvent et voilà, il suffit de s'y intéresser un peu et de motiver les troupes et puis on peut faire des grandes choses, hein. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire pour la kermesse de l'IA à notre échelle,
Exactement. Donc, est-ce que tu peux
mais
rappeler les dates pour ceux
bah
qui veulent
alors
venir?
la kermesse aura lieu de 13 juin après-midi, donc de 14h à 17h30 à Euratechnologie, dans le Grand
Aura
Théâtre
Technologie,
de Lyon.
c'est dans le centre de Lille.
Alors Euratechnologie, c'est à Lille-Lhomme, c'est du côté au nord de Lille
D'accord.
plutôt. Et donc voilà, c'est accessible en métro ou en voiture.
Oui, c'est civilisé, Lille.
Oh, c'est une grande métropole
Exactement.
et
Et
donc
donc,
voilà.
c'est là tout le monde pourra essayer, découvrir pour ceux qui découvrent. Ceux qui veulent rencontrer des professionnels, c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir ben, se frotter à des idées, prendre des idées et échanger. Et puis finalement, voir des solutions, des gens qui sont dans ce que disaient les doueurs. Ceux qui font des choses, voilà, et donc on aura la chance de venir pour tous ceux qui seront là. Je souhaite un très beau salon en amont. Si on veut avoir de l'information, on attend une semaine.
C'est
Donc,
ça.
quand on diffusera l'émission, vous aurez l'information et on la trouvera sur le site d'EdTech France, d'EdTech
Bah, Tech
Hauts-de-France.
France, surtout, je pense, sur LinkedIn, on va pas mal
Voilà.
communiquer. Donc sur le LinkedIn de Tech France, vous aurez les infos.
Et ceux qui ont apprécié ton discours, ta créativité, qui aimeraient bien en avoir un peu plus, te connaître ou participer dans ces cas-là, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre?
Ah, oh, bah vous tapez Chris Delepierre dans Google, vous aurez déjà pas mal d'infos. J'ai un blog aussi. Mais sur le site de EdTech Hauts-de-France, vous avez aussi mes coordonnées. Vous avez contact@edtech-hdf.fr aussi, qui est le mail de l'asso que je reçois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, des questions ou autre.
Et si vous avez
Ouais.
des envies, c'est toujours un bonheur. En tout cas, merci Chris. Chris Delepierre, président de EdTech Hauts-de-France. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure EdTech. En tout cas, merci. Au revoir à tous. Bye bye.
Merci Stéphane. Salut.